Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un numéro de Profession philosophe en compagnie d'Alexandre Jolien, initialement diffusé le 16 novembre 2018. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Alexandre Jolien. Bonjour Alexandre Jolien.
Bonjour Andine.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe, mais vous, comment vous présentez-vous?
Ben si tu... ça fait direct sérieux. Je suis très ému parce que je vous écoute pratiquement tous les jours et je suis presque un boutiquier de la philosophie. Je suis autodidacte et je suis vraiment très ému d'être là. Et donc, merci à vous.
Moi, je suis ravie de vous accueillir parce que vos ouvrages sont beaucoup lus et l'équipe des chemins aussi connaît bien vos ouvrages. Donc, on se réjouit de vous avoir pendant 50 minutes pour faire votre connaissance, aussi tout ce qu'on ne sait pas de vous et comment vous concevez votre métier de philosophe. Est-ce que pour vous, c'est un métier d'ailleurs, être philosophe?
C'est peut-être pas un boulot, c'est, vous parliez de vocation. Pour moi, je le sens comme un appel, comme, oui, c'est difficile à définir parce que on en fait un job, alors que pour moi, c'est une manière d'être à la Pirado, à la, comme les philosophes antiques, essayer de bâtir une vie, essayer de comprendre le mystère de l'existence. Cher Fanon, il disait que une de ses premières questions, c'était « qu'est-ce que je fous là ?» Et je pense que je suis un peu rentré en philosophie comme on entrerait dans les ordres pour répondre à la question « comment trouver la joie avec ce handicap dans ce monde ?» précaire et fragile, et j'allais dire, c'est pas plus con que ça, et c'est pour ça que j'ai embrassé la philosophie. Oui.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont beaucoup lus, mais c'est pas le cas de tous les ouvrages de philosophie contemporaine. On vous a découvert en 1999 avec Un éloge de la faiblesse, un texte qui a été primé et adapté au théâtre en 2005, puis en 2002, Le métier d'homme, dans lequel vous explorez le corps humain à travers diverses expériences, dont la souffrance et le rapport à l'autre, suivi de La construction de soi en 2006, qui est un ouvrage rédigé sous forme de lettres que vous adressez à Boès, Épicure, Spinoza, et qui tente de cerner les obstacles qui entravent cette joie dont vous venez de nous parler. Puis alors, ils sont nombreux, hein. On peut citer Le philosophe nu, Le petit traité de l'abandon, Vivre sans pourquoi, dans lequel vous racontez votre itinéraire spirituel en Corée du Sud, Trois amis en quête de sagesse, co-écrit avec Mathieu Ricard et Christophe André, un ouvrage qui est resté longtemps dans le top des ventes d'ouvrages philosophiques, et encore d'ailleurs, j'ai vérifié juste avant cette émission. Et enfin, vient de paraître aux éditions Gallimard, La sagesse espiègle, dans lequel le narrateur, c'est un ouvrage écrit à la troisième personne, raconte un phénomène d'addiction, l'addiction de dépendance affective à un homme, on y reviendra sans doute après. Je précise que l'ensemble de votre œuvre a été couronné par un prix, le prix Pierre Simon, le prix Éthique et Société. Ça doit être une grande fierté pour vous de voir votre œuvre couronnée ainsi.
Une fierté, une exigence aussi. Hein. On peut pas déconner avec ça. Et je pense que être philosophe, c'est quand même avoir une exigence éthique et le quotidien avec ses contradictions. C'est un thème en philosophie que j'aime beaucoup, c'est l'acrasie, c'est-à-dire on n'est pas à la hauteur de ses plus hautes aspirations intérieures. On se casse la gueule justement dans la pratique de la générosité, dans la modération. Mais j'allais dire, peu importe, le but c'est d'aspirer à cette sagesse, cette générosité, même s'il y a beaucoup de résistance. Oui.
Nous avons 50 minutes pour faire votre connaissance. On va remonter ensemble aux origines de votre rencontre avec la philosophie. On va explorer les références philosophiques, mais aussi cinématographiques et musicales qui viennent nourrir votre inspiration. On va pénétrer dans votre atelier de fabrication de concepts et d'écriture. Et enfin, réfléchir avec vous sur le rôle que doit jouer le philosophe dans la cité aujourd'hui, en tout cas surtout dans son époque. Pour commencer, savez-vous d'où vient votre goût pour la philosophie?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce d'incompréhension et d'émerveillement. Qu'est-ce que je fous là, à la Gère Fanon? Comment ça se fait que les personnes handicapées avec qui je J'ai vécu pendant 17 ans, été dans une joie ineffable, et pour moi, ce qui était à l'origine de l'impulsion philosophique, c'est comment diable être dans la joie malgré les circonstances, malgré le handicap, malgré l'hostilité, on va dire. Et c'est ça qui m'a mené comme par la main vers la philosophie. Ensuite, il y a un prof d'économie politique, j'ai fait une école de commerce, mais en Suisse, c'est plutôt un apprentissage pour gérer un commerce, et il m'a dit, toi, tu es philosophe. Et je suis rentré le soir à la maison, j'avais 17 ans, j'ai ouvert le dictionnaire et philosophe, amoureux de la sagesse, et c'était parti. Pardon, je suis pas certain des dates, parce que mon enfance, c'est un grand flou. J'allais dire, il n'y avait pas ces épisodes qui ponctuent une vie sociale. C'était à l'institut, tous les jours se ressemblaient. Et il y avait très peu de contacts. Aujourd'hui encore, quand on fait référence à un chanteur de rock ou à une œuvre culturelle, je m'étonne de ne pas savoir ce que c'est, parce que j'ai vécu comme hors du monde, hein, 17 ans, avec des Antonio, des Hubert, des personnes qui ont la trisomie, des personnes qui ont pas de bras, et c'était ça l'univers merveilleux, fantastique, redoutable, parce qu'il y avait un poids, et au milieu, on parlait de sagesse. C'était un peu comme, putain, ce monde et joyeux malgré ce décor un peu western, on va dire. Et la philosophie, elle est venue là. C'est pour ça que j'ai quelque chose de naïf. Je maîtrise aucun philosophe, mais pour moi, les philosophes, c'était des copains qui m'envoyaient des bouées de sauvetage et qui m'apprenaient un peu à ne pas couler. Il n'y a aucun souci de systématicité, d'exégèse, c'est juste essayer de tenir le cap et d'être joyeux et d'essayer d'être un peu moins con le soir qu'en se levant le matin, oui.
Vous vous souvenez du premier texte de philosophie que vous avez tenu entre les mains?
C'était un ouvrage qui citait Platon et qui faisait bien sûr référence à Socrate, et qui invitait le lecteur à devenir meilleur, à vivre meilleur plutôt qu'à vivre mieux. Et pour moi, c'est peut-être le premier coup de poing dans la figure, essayer de vivre meilleur, c'est-à-dire travailler l'intériorité, plutôt que d'améliorer les conditions extérieures et essayer d'avoir un confort pépère dans son existence, oui.
Donc il y a deux choses qui vous ont motivé dans votre rapport à la philosophie, la quête de la joie et de l'amélioration de soi, c'est ça?
Et oui, et de la compréhension d'un monde qui paraissait énigmatique. J'étais à l'institut, il y avait des barrières, et on disait que dehors, il y avait le monde des gens normaux, et je me rappelle, j'étais tout gamin, je regardais ce monde, et je me disais, il y a quoi de différent entre nous et l'extérieur? Et aujourd'hui, j'ai essayé de mettre la main sur un individu normal, et je suis heureusement pas arrivé, mais tout ça pour dire qu'on peut stigmatiser les gens, des catégories de personnes, dès la naissance, dire c'est pas comme les autres, que ça soit par la couleur, par la culture, et c'est les stigmates qui restent à vie et qui sont très conceptuels, parce que dans la réalité, on est plus, plus semblable que ce que le mental laisse à croire, oui.
On pourrait d'ailleurs qualifier votre travail de tentative de décollage des étiquettes qu'on assigne sur les gens. Vous connaissez la phrase de Bergson, on ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles. Mmh. Et vous semblez vouloir toujours décoller ces étiquettes.
Peut-être c'est le propre des philosophes que d'aller au-delà des apparences et de voir non pas l'essence, mais la réalité des êtres et des choses.
Je vous propose qu'on écoute une voix d'une personne qui a compté pour vous, dont les écrits ont compté pour vous. Il s'agit de Jeanne Hersch.
J'avais 5 ans. Mais bien entendu, je n'avais aucune idée de ce que c'était que la philosophie. Mais un matin, et je ne sais pas à la suite de quoi, je penche à croire que ce fut à la suite d'un rêve. J'ai commencé à empoisonner ma mère en lui demandant si les choses qui nous entourent sont vraiment là. Et elle ne comprenait pas très bien ce que je lui demandais. Elle m'a envoyé chez mon père. Et alors, mon père m'a dit, « Tu me vois ?» Je dis, « Oui. Alors, peut-être que je ne suis pas là. » Et je me suis raidie, et je me souviens encore. Et je lui ai dit, « Peut-être. » Alors, il m'a prise par la main. Il m'a conduite dans le corridor où il y avait un poêle. Dans ce poêle, on voyait derrière le mica briller le feu. Et il m'a dit, « Tu vois du feu là-dedans ?» Je dis oui, peut-être que c'est pas du feu, peut-être qu'il n'y a pas de feu, peut-être. Eh bien, mets-y la main et tu verras. Et je n'ai pas pu mettre la main parce que je savais que ça brûlait. Mais je n'ai plus rien pu dire et je me souviens encore de ce sentiment que j'ai eu d'être vaincue mais pas éclairée.
Vaincue mais pas éclairée, c'est Jeanne Hersch qui le dit en racontant un étonnement philosophique initial. Alors Jeanne Hersch, pour ceux qui ne la connaissent pas, comment vous la présentez, Alexandre Jolet?
Très ému parce que quand j'ai découvert le mot philosophie, j'ai découvert justement ces émissions qui ont donné lieu à une publication chez Gallimard qui s'appelle L'étonnement philosophique et qui est une merveilleuse histoire de la philosophie. En réalité, c'est mon premier bouquin de philosophie que j'ai lu. J'ai d'ailleurs séché les cours pendant une semaine pour m'initier à cette vieille grand-mère, parce qu'elle nous raconte Platon, Jaspers, Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche, comme si on était au coin du feu. Et j'aime bien, c'est pas de la théorie, c'est montrer que les philosophes, c'est, sans faire du populisme, des copains qui peuvent nous aider à comprendre ou à rester émerveillés devant le monde. Oui.
Oui, dans les années 80, elle avait proposé une série d'émissions dans la radio suisse romande, oui. Ce que vous décrivez. Elle a aussi écrit des ouvrages, notamment L'illusion philosophique, qui était son premier texte à 26 ans. Elle a une longue carrière de philosophe. Elle a finalement été appelée à créer et diriger alors la division de philosophie de l'UNESCO, donc des responsabilités à l'échelle internationale. Elle nous a quittés en 2000, et alors son œuvre est très peu étudiée. En France, en tout cas, je ne sais pas si en Suisse on en parle davantage, mais...
Oui, mais justement, si on va chez Gilles Bergeon pour pas faire de publicité, il y a encore des piles de l'étonnant philosophique, des volumes écornés, et ça me réjouit que... Elle qui disait qu'elle n'avait aucune prétention sinon d'être une excellente pédagogue puisse transmettre le goût de l'étonnement devant l'être, devant l'autre et devant soi finalement.
À quel moment avez-vous décidé de faire de la philosophie votre métier ?
Ça s'est imposé. Moi, j'aurais voulu faire chauffeur poids lourd. Et pour des raisons qui sont strictement privées, j'ai pas pu répondre aux exigences. Donc, faute de mieux, j'ai pu embrasser la carrière d'apprenti philosophe. Parce que philosophe, c'est un grand mot.
Ah, c'est ça, le terme de philosophe est trop lourd ou trop solennel?
Je suis pas du tout un intellectuel. Quand j'écoute vos invités, j'ai un profond respect. Je répète, pour moi, le rapport à la philosophie, c'est d'abord affectif, c'est je suis dans la merde, aidez-moi un peu à surnager et à trouver de la joie. J'ai pas d'autres ambitions.
Oui, mais vous avez une grande connaissance des textes philosophiques, vous en parlez très bien et vous proposez une pensée qui est la vôtre. C'est ce qu'on appelle un philosophe.
Oui, après on peut s'interroger à loisir du philosophe. Celui qui aime la sagesse, oui, j'adore la sagesse, j'adore d'autant plus que je ne l'ai pas.
Alors on va écouter une autre voix de quelqu'un de complètement différent qui va nous introduire à une autre partie de votre œuvre. On viendra ensuite plus précisément sur les philosophes de la joie qui ont beaucoup compté pour vous. Mais voici l'archive, la voix d'un moine, le moine Suzuki qui parle du zazen.
If you sit zazen, you are not thinking anything. You are not watching anything.
Si on est en position assise, zazen, on ne pense rien, on ne regarde rien. On se concentre à 4 ou 5 pas devant soi, mais en fait, on ne regarde rien. La concentration est là, mais on ne regarde rien. Même si beaucoup d'idées viennent, on ne pense pas, vous savez. Ça vient et ça repart, c'est tout. On n'accueille pas beaucoup d'idées, vous savez. Si elles viennent, d'accord. Et si elles repartent, d'accord, c'est tout. C'est le zazen.
Voilà la voix du moine Suzuki sur le zazen, traduit par Nicolas Berger, qui a trouvé cette archive. Vous aviez l'air très ému d'entendre sa voix, Alexandre.
Ah oui, j'ai des larmes aux yeux. Je savais pas que ça existait. Merci. On parlait de Jeanne Hersch comme grand-maman. Ben, Shunryu Suzuki, c'est un peu le grand-papa. Et ça, il dit d'accueillir les pensées, d'être un zazen, d'avoir l'esprit vaste. Et pour moi, c'est pas du syncrétisme, mais le zen peut être une manière de vivre la philosophie de manière plus profonde, en accueillant le silence, en osant aller vers le silence et la non-pensée, oui.
Donc le moine Shunryu Suzuki Roshi, alors les trois noms, je sais pas, peut-être que vous connaissez davantage, comment on le présente ce moine, comment vous l'appelez-vous?
Suzuki, comme les bagnoles.
Voilà, comme les bagnoles, c'est ça.
Roshi, c'est un titre. Et,
ouais. Comment avez-vous découvert sa pensée? Comment avez-vous découvert le zen en particulier?
Il y a un moment de ma vie où j'ai un peu faussé la compagnie à la philosophie, parce que justement, j'avais peut-être une approche par trop rationaliste et volontariste qui croyait qu'avec une bonne orthopédie de l'âme, on pouvait se débarrasser des traumatismes. Et le zen, c'était un retour vers le corps, un retour vers le silence, justement. Oser ne pas avoir une réponse à tout. Et oser être là. Alors malheureusement, la méditation s'est vachement récupérée et ça devient presque un objet commercial, un truc que l'on vend sur les étals de l'individualisme. Mais à la base, la méditation, le zazen en l'occurrence, c'est vraiment une ascèse qui vise à se déprendre de soi. C'est pas un truc pour assurer un bien-être pépère, mais une invitation à aller au-delà du mode de vie pilotage automatique pour descendre dans le fond du fond et se perdre.
Vous pratiquez la méditation?
Oui, malgré moi, j'allais dire, tous les jours, c'est vraiment une assise justement pour essayer de quitter les habitudes mentales et être là, revenir sur terre quand on a peut-être tendance à vivre dans l'ego, oui.
Et pour vous, la pratique philosophique s'oppose ou est complémentaire à la méditation?
Alors, c'est difficile à dire parce que complémentaire, ça supposerait que c'est radicalement différent. Moi, je pense qu'il y a une pratique spirituelle qui peut englober la cataphase et l'apophase, c'est-à-dire le silence et le discours, on va dire, pour faire simple. Je pense que ce mariage des deux est très fructueux. Savoir oser le silence, oser le non-jugement, la non-pensée, si c'est possible, et dans le même temps, avoir un discours sur l'être, sur soi et le monde. Oui.
Alors, je ne peux pas vous proposer de séance de méditation ni un silence trop long, parce que sinon ce serait ennuyeux pour les auditeurs. Je peux vous proposer, en revanche, un discours sur l'être et sur le monde, comme vous le dites, celui de Spinoza.
On va entendre sa voix.
Et voilà, je vous propose la voix de Spinoza en exclusivité à travers la bouche de Georges Clès, le comédien qui lit les textes pour nous. Il s'agit de la toute fin de l'éthique, la proposition 42, où il conclut sa démonstration sur la béatitude. Nous sommes donc à la fin de l'éthique, 1677. Spinoza a démontré au cours des 5 livres comment appréhender le monde de manière géométrique pour accéder à ce qu'il appelle la béatitude. Écoutez la définition qu'il en donne.
La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Et nous n'éprouvons pas la joie parce que nous réprimons nos désirs sensuels, c'est au contraire parce que nous en éprouvons la joie que nous pouvons réprimer ces désirs. J'ai achevé ainsi l'examen de tout ce qui concerne le pouvoir de l'esprit sur ses affects et la liberté de l'esprit. On voit par là quelle est la force du sage et combien il est supérieur à l'ignorant conduit par ses seuls désirs sensuels. Non seulement l'ignorant est agité de mille façons par les causes extérieures et ne possède jamais la vraie satisfaction de l'âme, mais encore il vit presque ignorant de lui-même, de Dieu et des choses. Et dans le temps même où il cesse d'être passif, il cesse aussi d'être. Mais le sage, au contraire, en tant que tel, est à peine ému. Il est conscient de soi, de Dieu et des choses, par une sorte de nécessité éternelle, et ne cessant jamais d'être, il jouit toujours, au contraire, de la vraie satisfaction de l'âme. Si la voie dont j'ai montré qu'elle conduit à ce but semble bien escarpée, elle est pourtant accessible. Et cela certes doit être ardu qu'on l'atteint si rarement. Comment serait-il possible, en effet, si le salut était proche et qu'on pût le trouver sans grand travail, qu'il fût négligé par presque tous. Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le philosophe, quoi qu'il s'en défende, Alexandre Jolien. Nous venons d'entendre un texte de Spinoza, La fin de l'éthique, qui définit la béatitude comme n'étant pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous visez ce but-là, c'est ça, Alexandre Jolien ?
Je ne pense pas qu'il faille le viser. C'est magnifique, et d'ailleurs la belle voix de Georges Clès qui lit Nietzsche en
aussi,
allemand.
C'est vrai.
Oui, l'homme libre et le sage n'est pas ignorant de lui-même. Et je crois que c'est un merveilleux point de départ de la philosophie, se demander dans quelle mesure il y a des déterminismes qui pèsent sur ma vie et déjà prendre conscience de tout ce fatras passionnel qui nous détermine. Et comme dit la fin de l'éthique, des fois on a l'impression que plus on se sent vibrer, plus on a l'impression d'exister. Et peut-être, c'est quoi, et c'est la fin de l'éthique aussi, c'est quoi la véritable satisfaction de l'âme?
Et cette joie-là, que Spinoza identifie à la sagesse, et même ce qu'il appelle la béatitude, pensez-vous que ce soit, comment dire, une sorte d'idéal que l'on suivrait de manière à s'améliorer, ou est-ce que on peut connaître des moments de joie, des moments de béatitude?
Alors là, le zen est peut-être un complément, en ce sens qu'il ne faut pas figer, réifier la béatitude, la sagesse, en disant la sagesse c'est ça, et je voudrais atteindre ça. C'est comme si on aurait un programme à suivre, alors que la liberté intérieure et la satisfaction de soi, et là je suis pas sûr d'être spinoziste, mais peut-être qu'elle se donne malgré soi finalement.
Pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas sûr d'être spinoziste?
Parce que chez Spinoza, il y a quand même un boulot intérieur et qui est lassé. Je viens de dire que c'est précieux et rare. Mais il y a aussi, il en atteste aussi d'une manière que il y a des joies qui sont purement données. Une rencontre, un enfant, un bonheur. On n'a pas de prise là-dessus, ça nous tombe dessus comme un éclair et c'est ça qui peut faire peur. J'ai un ami qui a connu la toxicomanie et qui a mis fin à ses jours quand il allait mieux. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interrogé et je crois aujourd'hui qu'il faut beaucoup de force pour accueillir le bonheur. Parce que précisément... ça dépend pas de nous. Comme disait Trungpa, un maître tibétain, putain, il y a tellement de trucs qui sont nécessaires au bonheur qu'on peut, c'est impossible à conserver le bonheur. Là, il s'éloignerait de Spinoza, mais les deux peuvent nous aider. C'est-à-dire, il n'y a pas de possession du bonheur. Il faut se méfier de dire « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Le bonheur est un don. Pour ma part, je suis toujours sur un fil de rasoir entre le bonheur et le désespoir, précisément parce que ça dépend pas de nous. N'en déplaise aux stoïciens, il y a plein de trucs qui sont donnés ou pas.
C'est ça, la philosophie n'a pas pour vocation à rendre heureux. Enfin, lire les philosophes n'a jamais rendu plus heureux. Ça peut venir au secours d'autre chose, mais
non,
pas du bonheur.
C'est le grand débat, est-ce que la lucidité est plus importante que le bonheur? Peut-être que les deux vont de pair, mais est-ce que la lucidité, comme l'Ecclésiaste nous le dit, rend triste ou malheureux? Ou est-ce que... c'est pas une manière de dire, voilà. Ce que j'aime bien dans Trungpa, c'est cette invitation à renoncer à toute sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas de point fixe dans une existence. Et hier, je lisais, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on tombe. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de sol.
Et donc on va continuer de tomber.
Et ça ne va pas faire mal, mais la chute est vertigineuse. Oui.
Pour continuer à explorer avec vous ce qui fait le ferment même de votre travail, on va s'interroger, on va écouter aussi les nombreuses références et voix qui composent votre imaginaire philosophique et culturel et qui sans doute vous nourrit dans votre écriture. On a compris l'importance de la sagesse et de la joie dans votre travail, qui sont des quêtes perpétuelles. Et vous avez aussi exprimé, peut-être en filigrane, la prise de risque nécessaire, parfois pour le meilleur et pour le pire. Dans votre dernier livre, vous racontez un phénomène que vous appelez d'addiction, qui est d'autant plus surprenant qu'il arrive après un séjour que vous avez fait en Corée, où le but était au contraire de vous familiariser avec la pratique zen. Et vous dites, mais en fait, c'est n'importe quoi, parce que je suis rentrée et je me suis fait avoir comme une drogue, en fait, c'est ça?
Oui, je me suis épris d'un garçon qui m'avait skypé depuis la Corée. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, il prenait sa douche en me skypant et je suis tombé complètement fasciné de ce corps. Je voulais être lui et pendant 6 mois, tous les jours à 3 heures, je regardais ses paires de fesses sous des hectolitres d'eau, et je voulais être lui, et j'aurais pu me flinguer si j'avais pas eu ma dose. Et de nouveau, là, Spinoza, Aristote, Épictète, qu'est-ce qu'on fout? Ce qui m'a aidé, c'est des copains qui m'ont précisément invité à nourrir une sagesse espiègle.
C'est le titre de votre livre, hein, La sagesse espiègle.
et se dire que finalement, voilà, il y a une amie bouddhiste qui m'a visité et elle m'a dit c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème, et ça m'a beaucoup aidé, cette phrase, c'est le bordel, autrement dit le tragique de l'existence, la passion, mais il n'y a pas de problème, c'est-à-dire ne pas en faire un psychodrame, voilà. Et j'ai peut-être écrit ce livre surtout pour inviter à ceux qui vivent la dépendance, pas de garder espoir, mais justement, il y a peut-être un itinéraire de libération de la dépendance. Oui.
C'est le bordel, mais il n'y a pas de problème, y compris en situation de dépendance. C'est une phrase qu'aurait pu prononcer mot pour mot Charles Bukowski.
Ah.
Bukowski still had it. I do suppose it will be the same. A beer, and then another beer, and then another beer. Maybe then a half pint of scotch, three cigars. Smoke, smoke, yes, smoke. Under the electric sun of night, hidden here in these walls with this woman and her life, while the police are taking the drunks off the streets.
Charles Bukowski, enregistré par lui-même en 1969, c'était une source d'inspiration directe pour votre dernier livre, en tout cas, Alexandre Jolien.
C'est quelqu'un qui vivait la dépendance, en l'occurrence l'alcoolisme et les cigarettes et peut-être le sexe. Et pourtant, il nous apprend qu'on peut être infiniment libre en pleine dépendance, en pleine aliénation, c'est-à-dire déjà ne pas résister, ne pas juger cet état qui est le nôtre, déjà prendre conscience. Alors, c'est pas une invitation à se bourrer et à accumuler des cigarettes, mais peut-être ne pas avoir peur de ces chaînes intérieures. Et le premier pas est là, pour le coup, c'est très spinoziste, je pense, pour réaliser quels sont les, de quoi j'ai faim, de quoi j'ai soif. Et regardez ce qui nous détermine, oui.
Vous dites c'est spinoziste, et en effet, hein, c'est Spinoza qui écrit « Il ne faut pas essayer de juger, ne même pas pleurer, mais comprendre,
comprendre. ».
Bukowski, on ne peut pas dire qu'il essaye de comprendre, mais il accepte, c'est très différent.
Il accepte et
ne lutte pas contre lui-même.
Voilà, il n'y a pas une guerre intérieure, il n'y a pas une guerre civile. Ça devrait être autrement. Il n'y a pas eu, pour autant qu'on sache, il n'y a pas un mépris de soi qui peut nous enchaîner encore plus.
Faut-il lutter pour être libre? En fait, c'est ça la question qui vous occupe. Et c'est celle aussi qui intéresse. Vous semblez fasciné par les personnages qui, eux, ne luttent pas et semblent affirmer résolument leur liberté. On va entendre un autre extrait, assez surprenant aussi, et qui illustre exactement cette question. Qui est le plus libre de tous les hommes libres? C'est sans doute the dude, le duc en français.
Two old sodas, Gary.
Right.
Good luck tomorrow.
Yeah, thanks, man.
How do you do, dude?
I wonder if I see you again.
I wouldn't miss the semis. How things been going?
Quoi de neuf depuis l'autre jour? Ma foi, on a fait rouler avec des hauts et des bas.
Je vois ce que tu veux dire.
Ouais. Merci, Gary. Bon. Et bonne continuation, je retourne là-bas.
D'accord. Change rien, Duc.
Ah, ça.
Continue de te la couler douce.
T'inquiète. Le Duc tient bon.
Le Duc tient bon. Vous, je sais pas, mais moi, ça me réconforte. C'est bon de savoir qu'il est là. Le Duc. À se la couler douce en notre nom à tous. Bon, j'espère que vous vous êtes bien amusés. T'as un séjour ici ou là?
The Dude, le Duc en français, vous inspire-t-il autant, Alexandre Jolien, que l'éthique de Spinoza?
Oui, j'aime bien l'idée qu'un film, des personnages comme Bukowski, comme le Big Lebowski peuvent nous apprendre un lâcher prise, j'allais dire un détachement, une déprise. De soi, en écoutant l'extrait, il y avait « ne changez rien ». Et il me semble qu'on passe sa vie à vouloir changer, progresser, s'améliorer, acheter un bouquin comment, s'améliorer, ne changer rien. Et je crois que c'est peut-être la base de l'amour fatigue, de l'amour de la réalité finalement. Et j'aime beaucoup ces films qui délivrent ce message sans prétention, c'est-à-dire la vie avec ses chaos, c'est aussi et surtout le lieu de l'exercice d'une sagesse avec les moyens du bord. Oui.
Mais ne changez rien s'oppose au « devenez meilleur » de Socrate qui vous a donné envie de faire de la philosophie. Soit on ne change pas, soit on essaie de devenir meilleur. Mais, on peut
mais
pas
là
faire
aussi,
en même temps.
Le zen peut nous apprendre la dualité, opposer les trucs, la logique aristotélicienne, le principe de non-contradiction. Finalement, il est permis de s'en taper par moments. On peut concilier Socrate et ne changer rien. La vie est contradictoire et pourquoi faudrait-il absolument gommer les aspérités? Je trouve magnifique d'avoir à la fois cette aspiration au progrès intérieur et à la fois cet amour fatigué, voilà, ne changez rien. Pour moi, c'est une contradiction qu'en apparence, parce que du moment qu'on accepte sa réalité, peut-être que le progrès, de nouveau, advient malgré soi, finalement, oui.
Et d'ailleurs, c'est peut-être le lieu de l'écriture que de pouvoir faire naître ensemble ces contradictions, qui ne sont pas des contradictions logiques, et que d'un point de vue extérieur, on va y venir dans un instant, plus précisément à votre rapport à l'écriture. Avant cela, une dernière référence, une dernière chose que l'on entend, que l'on voit dans votre tête ou dans votre cœur et qui vous accompagne. Il s'agit cette fois-ci non pas d'une voix ni d'un film, mais de ceci. Non pas sur France Musique, mais sur France Culture, et vous écoutez la première ballade de Chopin en sol mineur, opus 23, interprétée par Angela Brownridge. C'est un hymne à la joie, cette ballade, dites-vous, Alexandre Jolien.
Oui, il y a une certaine mélancolie en écoutant Chopin, et de nouveau le chaos et la paix de l'âme, et c'est pas forcément incompatible. C'est dans le creuset du chaos qu'on peut, comme dit Nietzsche, il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Chopin, c'est le chaos, mais c'est aussi la paix qui danse. Oui.
Vous écoutez de la musique en travaillant, Alexandre Jolien?
Oui, Chopin, Beaucoup de techno. Voilà, c'est.
De techno.
Ça me vide l'esprit, oui. Oui, chacun son trip. Moi, c'est la techno, Chopin, oui. Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé d'écrire votre premier livre publié, je crois que c'est L'éloge de la faiblesse. Peut-être oui. Que ce n'est pas le premier écrit. Mais le moment où vous vous êtes dit, mais ce travail philosophique, ces lectures me nourrissent de telle façon qu'il faut moi-même que je me mette à écrire.
Non, pour moi, l'écriture, c'est sacré. On m'a demandé de témoigner de mon parcours. Et la première fois que j'ai pris la plume ou le clavier, c'était vraiment quelque chose qui m'avait peur parce que pour moi, écrire, c'est sacré. Et donc, l'écriture, c'est imposé. Et moi, mais c'est un acte pas du tout facile, et voilà, mais que j'aime beaucoup.
Comment vous écrivez?
Ben, je dicte à une assistante, je dicte à ma femme, je dicte à ma fille, et donc c'est d'abord une parole qui sort du cœur. Et voilà, j'ai toujours eu le regret de pas pouvoir raturer, écrire. Mais voilà, c'est un déterminisme libre à chacun d'en faire une opportunité, ouais.
Comment ça se passe? Parce qu'écrire à l'oral, vous reprenez vos phrases, vous les travaillez
oui,
en les disant?
Oui, j'ai dicté le dernier livre à ma femme et on l'a relu, je crois, 24 fois. Et c'était une assise, tous les jours, de se mettre au travail, écouter la phrase et voilà.
Et est-ce que quand vous écrivez, vous avez l'impression de créer quelque chose de nouveau, de créer des concepts, de créer des termes, de créer quelque chose qui n'existait pas avant?
Franchement, non. Je n'ai pas la prétention d'apporter du neuf. Simplement, je crois que le handicap offre une caisse de résonance et une sorte de laboratoire philosophique exceptionnel, c'est qu'on va dire. Mais ça grossit tellement les trucs que c'est ça l'opportunité. Mais créer des concepts nouveaux, c'est pas trop mon truc, voilà.
Et en même temps, vous réfléchissez sur ce qu'on peut appeler des concepts ou des notions qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés, que ce soit le bonheur, la joie, la sagesse, sont les concepts phares qui, d'ailleurs, cachent sans doute un gros malentendu autour de la philosophie,
oui.
Qui serait là pour nous aider à mieux vivre. Oui. Or, il n'en est rien. Mais vous les embrassez, ces concepts-là.
J'aime pas la notion de bonheur, parce que justement, on en fait une tarte à la crème, une sorte de goal, de but à atteindre. Alors que c'est bien plus dense et peut-être moins compliqué que ça. Mais c'est des objets philosophiques légués par la tradition. On n'a pas inventé la joie, le bonheur, la liberté. C'est ça qui est beau. On est héritier de concepts, de notions, de réalités, d'expériences, d'humus. Et encore une fois, libre à chacun de s'en faire l'héritier, oui.
Mais ça ne vous inquiète pas, ce malentendu autour de ces notions philosophiques?
J'étais à une grande librairie et je voyais le développement personnel et ça me faisait un peu peur et voilà. Et en même temps, il y avait Nietzsche, il y avait Socrate quelques rayons plus loin, pardon, Platon, et c'est réjouissant, oui, Spinoza. Ouais, toute la bande était là et justement, pas commercialiser le bonheur, pas en faire le lieu de l'individualisme roi, oui.
Qu'est-ce que c'est les pharmacopées?
Alors, la pharmacopée, c'est un petit blog que je fais sur Internet, grâce à des amis et mon assistant. C'est une idée, un outil philosophique, comme une pharmacie. D'ailleurs, ce matin, j'étais chez le dermatologue qui m'a ausculté des pieds à la tête. Et il a dit, je suis fier, j'ai eu 3 philosophes, j'ai eu Deleuze, Michel Serres, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il avait comme problème, Deleuze? Il m'a dit, secret professionnel. J'ai dit, mais il est mort, vous pouvez me dire. Et voilà, après la consultation, il donne des pommades, il donne une prescription. J'aime bien l'idée que la philosophie est aussi pas un mode d'emploi, mais propose des exercices spirituels pour cheminer et pour progresser, tout en assumant qu'il n'y a peut-être rien à changer, car, comme disait Spinoza, par réalité et perfection, j'entends la même chose.
Alors, quels sont ces outils philosophiques qui vous aident à écrire ?
Déjà, inscrire sa vie dans une dynamique, c'est-à-dire ne pas figer les choses. Dans le Sutra du Diamant, il est dit « Le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle le Bouddha. Ma femme n'est pas ma femme, c'est pourquoi je l'appelle ma femme. Mon handicap n'est pas mon handicap, c'est pourquoi je l'appelle mon handicap. » C'est-à-dire, quand on renonce à figer la réalité dans les mots, ben, on peut avoir un rapport au monde qui est plus fluide, j'allais dire. Et je renonce à figer la réalité et j'avance. Et le travail philosophique aide à cela, me semble-t-il.
Vous parlez beaucoup du corps dans votre œuvre. Est-ce que le corps peut devenir un outil aussi philosophique ? Ou est-ce que c'est toujours un obstacle ? Ce qui est la grande question philosophique depuis le début de la philosophie.
Le corps est un obstacle et un véhicule magnifique. Encore une fois, les deux tiennent ensemble. Il est un outil formidable, ce que peut le corps, comme dirait Spinoza. Il permet l'amour, il permet l'affection, et en même temps, il permet l'exclusion, le rejet, il autorise le jugement. C'est terrible comment on peut juger un corps, lapsus. Et justement, réduire le cœur au corps, c'est-à-dire, j'ai fait un jeu un peu à la con avec un ami, j'étais sur Tinder en mettant, et d'ailleurs Grindr aussi, en mettant handicapé, et j'ai été étonné, zéro réponse. Bon, maintenant, je lance un appel. C'était pour tester, parce que je croyais pas que ce soit un obstacle autant. Et j'ai mis handicapé sympa, zéro réponse. Et là, c'était une expérience, pas philosophique, mais de dire voilà jusqu'où va la stigmatisation.
Est-ce que, au-delà des ouvrages que vous écrivez, dans lesquels vous parlez souvent de votre handicap, est-ce que vous vous engagez aussi pour cette cause-là, justement? Est-ce que la notion même d'engagement en tant que philosophe a un sens pour vous?
Oui, justement, j'ai été contacté par la ministre en charge des personnes handicapées. J'étais vraiment émerveillé par l'écoute, par la disponibilité, et je lui ai dit que pour moi, la meilleure façon de défendre les personnes handicapées, c'est de les promouvoir au-delà de leur handicap. Pas faire des trucs tarte à la crème, on invite 10 handicapés sur un plateau, mais montrer qu'une personne handicapée peut être philosophe, peut être, je sais pas, employé de banque, père de famille, peut être à part entière, parce que c'est un danger de devoir être exceptionnel quand on est handicapé pour compenser ça. Pour avoir du succès sur Tinder, il faut avoir un pédigré magnifique. C'est horrible comme exigence. Donc l'engagement, il serait de ce côté-là, et moi je crois plutôt à l'engagement au quotidien. J'ai la chance d'être invité à des groupes de soutien pour personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie. Et je suis toujours frappé des ressources qui habitent un corps humain. Et l'engagement, il est là. Et dans l'écriture et dans l'écoute. Et aussi l'engagement de ne pas se casser la gueule, ce qui n'est pas gagné pour l'instant, oui. Être désespéré, baisser les bras, oui, c'est un engagement de pas se casser la gueule, oui.
Ce qui est un engagement qui vous engage, et en même temps, si chacun prenait et tenait cet engagement, peut-être que la collectivité s'en porterait mieux.
Oui, et beaucoup J'ai beaucoup foi dans les médias. Je vous ai dit avant que j'écoutais votre émission tous les jours, mais je pense que les médias devraient ouvrir leur table, j'allais dire, aux marginalités de manière plus osée, j'allais dire.
C'est pas le cas, oui, vous trouvez?
Quand je vais accompagner ma petite fille à l'école, je suis le seul handicapé dans la cour d'école. C'est affligeant. Pourquoi les personnes handicapées, pourquoi les minorités ne font pas plus partie du paysage, j'allais dire? C'est normal. Je trouve que les médias ont une responsabilité à montrer que, voilà, il y a des diversités. N'en faisons pas des tonnes. Oui, mais juste, c'est la vie, donc l'intégration est là, oui. Oui. Je deviens politique, excusez-moi, mais c'est peut-être un engagement que de le dire.
C'était le sens de ma question, donc ne vous en excusez pas. On va se quitter avec un dernier son, une chanson que vous nous avez recommandée. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Il s'agit des Rita Mitsouko, La sorcière et l'inquisiteur. Pourquoi cette chanson?
Ah oui, j'adore les Rita Mitsouko. Quand je vais pas bien, c'est-à-dire assez souvent, je l'écoute et ça donne une légèreté. De nouveau, le gai savoir à la Nietzsche et à la Spinoza, c'est repérer ce qui nous met en joie. Et les Rita Mitsouko, il y a une sorte de frange déconnade et un art qui mariait ensemble des capes et réjouissait. Et j'adore.
Merci beaucoup, Alexandre Jolie.
Merci à vous.
C'est un grand plaisir de vous recevoir à ce micro et je renvoie les auditeurs à toute votre œuvre et notamment à votre dernier livre, La sagesse espiègle, aux éditions Gallimard.
Merci.
Connaissez-vous la chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforma son tortionnaire, le grand inquisiteur qui lui ouvrit son cœur. On pouvait la trouver dans la forêt, les nuits de lune pleine, où elle donnait des incroyables fêtes. Et toute nue, elle chante comme ça. Commence, ça commence. Toute la forêt se met à parler. Mais en transe, de par sa mère, la sorcière savait comment s'élever, comment prier, comment soigner.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous partez d'une actualité qui est un phénomène dans l'édition, Géraldine.
Ben oui, le phénomène du livre audio, resté longtemps timide sur le marché de l'édition, on le croyait réservé aux non-voyants ou à ceux qui n'aimaient pas lire, eh bien il explose désormais, s'inscrivant dans l'engouement numérique pour les podcasts, par exemple États-Unis, Suède, Allemagne, Grande-Bretagne. La France n'échappe pas au phénomène entre vente de CD et téléchargement de livres. Mais qu'en est-il de la philosophie dans ce monde du livre audio? Quelle place pour la philo dans ses livres à écouter? En plus de découvrir ce que nous réserve dans ce domaine l'édition audio, c'est aussi bien sûr l'occasion de donner à entendre tous ces textes et toutes ces voix qu'on aime tant.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage.
Ah, que ferait-on au chemin et dans la vie même sans la recherche de Proust?
On serait bien embêté, sans la, surtout la version audio, vous avez raison, qu'on écoute et qu'on diffuse beaucoup d'ailleurs sur les
voilà,
chemins.
Voilà, et notamment donc ce début, cet incipit lu par André Dussolier, et puis il y a aussi Guillaume Gallienne, Denis Podalydès, entre autres, disponible en 35 CD aux éditions Télème. C'est une des premières maisons d'édition, Télème d'ailleurs, à faire des livres parlants. Et dans ce domaine, il faut distinguer une maison d'édition entièrement dédiée au sonore, comme Télème, ou Audiolib, des maisons d'édition classiques qui développent des collections audio, par exemple Gallimard avec Écoutez Livre ou Les Puffs qui se déclinent en audio. Et puis à cela, il faut aussi ajouter des acteurs dans la diffusion comme Amazon avec Audible, Google avec Google Play Livre Audio et Hachette avec Audiolib. Et sans oublier, alors là il faut suivre aussi, un label indépendant comme Frémo et Associés qui conçoit et produit des livres audio lui aussi. Bref, après ce tour d'horizon de l'édition audio, qu'en est-il donc des livres audio de philo? Car certes Proust a un fond philosophique, mais on le classe encore en littérature. Que peut-on alors écouter comme texte philosophique?
Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique.
Alors on me dit que les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, ce n'est pas forcément de la philosophie, mais quand même un peu. Là, on vient de les entendre lus par Fabrice Lucchini, et puis on peut aussi citer Ainsi parlait Zarathoustra par Michael Lonsdal, Nicole Garcia qui lit La vie heureuse de Sénèque, Jacques Bonafé lit Le discours de la méthode par Descartes, etc., etc. Alors il faut le souligner, la philosophie n'est pas boudée par l'audio, elle a sa place et même une belle place. Deux grands comédiens et lecteurs portent les textes les plus canoniques des philosophes. Mais est-ce si évident, de l'autre côté, d'écouter la philosophie? C'est une question que l'on se pose régulièrement ici au chemin, en faisant lire des extraits de textes, des plus techniques aux plus imagés, Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, ou par exemple le long poème de Lucrèce de la nature des choses. Et tout l'enjeu n'est pas seulement de lire à voix haute un texte, mais aussi de le rendre audible, c'est-à-dire compréhensible et accrocheur, autant dans le sens que dans le style, sans céder à la facilité. Alors parfois, certains philosophes ont une langue qui s'y prête peu, quand d'autres ont de fait un sens musical.
C'est comme toutes les choses très importantes. Plus elles jouent un grand rôle dans notre vie, plus elles nous enveloppent, et moins elles sont palpables, visibles et manipulables. Je ne sais quoi, donc ce n'est pas un nouveau concept que j'aurais inventé, qui s'ajouterait à la liste déjà longue des concepts qui meublent l'histoire de la philosophie. Si c'était pour ça que j'écrivais ces trois volumes, ça ne vaudrait pas la peine. Je prétends à autre chose, n'est-ce pas? C'est pas un concept, c'est pas un joujou avec lequel on puisse jouer ce je ne sais quoi. Il faut bien donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable, et après tout, c'est le métier des philosophes et de la philosophie.
Parmi les offres audio de philosophie, alors il n'y a pas que les grands textes, parfois difficiles, mais aussi, pour éclairer le tout, des cours. Alors on en trouve beaucoup de Luc Ferry et Michel Onfray, je l'ai remarqué, mais aussi des cours de Jean-François Mattei sur les présocratiques, de Patrick Thor sur Darwin. Et on trouve aussi de grandes voix, par exemple Jean Kelevitch, qu'on vient d'entendre, qui à cet égard est quand même assez incontournable. Et puis il y a aussi Bachelard, en poète-philosophe, Camus, qui se fait le meilleur lecteur de ses propres textes. Mais alors que faire des textes plus difficiles, des styles plus aride à l'oral, sans ne renoncer à aucune œuvre, que donner à entendre? Et bien dans un texte intitulé « Voix », le philosophe Jean-François Lyotard distingue la lexis, c'est-à-dire la voix articulée qui transmet les informations, aussi logos, voix articulée de la raison, de la phonée, c'est-à-dire le ton, le timbre. Et à lire un développement rationnel, seule la voix articulée du logos semble primer. Et pourtant, le timbre est bien là. Et même mieux, on peut se demander si ce timbre et ce ton, cette autre voix qui résonne, sont peut-être précisément ce qui rend audible la voix, parfois difficile, de la raison, la voix des philosophes.
Merci Géraldine, c'est un sujet passionnant. Nous, on aime bien rendre hommage aux voix qui lisent des textes de philosophie, même pour nous, hein, Georges Clèze depuis le début de l'histoire de cette émission, Jean-Louis Jacopin qui nous a quittés l'an dernier, Vincent Schmitt, Yvan Morane, ils sont nombreux à prêter leur voix aux textes de philosophie pour notre plus grand bonheur. Merci Géraldine. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Marie Simon, Isis Jourda, Sharon Houri, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger et Thomas Beau qui réalisent cette émission, Jacques Hubert à la prise de son. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau départ. Et oui, quand tout le monde rentre des vacances, les chemins vous emmènent en voyage aux côtés d'Ulysse sur le navire de l'Odyssée d'Homère. Pour en parler la semaine prochaine, Pierre Judet de la Combe, Pierre Bergougnou, Suzanne Saïd et Pierre Pellegrin seront les invités au micro des chemins.